Il est 22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite, le journal Isabelle Millet.
Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses.
Les mots très forts de Greta Thunberg ce soir à la tribune de l'ONU devant les chefs d'État réunis au chevet du climat. Emmanuel Macron lui a répondu, vous l'entendrez. L'ouverture du procès fleuve du Mediator, 9 ans après la révélation du scandale. Des centaines de morts, d'autres qui survivent et qui réclament des comptes.
Enfin, le procès pénal. Moi, j'espère que le laboratoire Servier soit reconnu coupable de nous avoir empoisonné notre vie.
Nathalie, victime du Mediator, une question au cœur des débats. Comment ce médicament antidiabétique, largement détourné comme coupe-faim, a-t-il pu être prescrit pendant 33 ans, malgré les alertes répétées sur sa dangerosité? La plus grosse faillite de l'histoire du tourisme, celle de Thomas Cook. À 22h20, Emmanuel Dutheil reviendra sur ce coup de tonnerre. Quelles conséquences? Quelles leçons à en tirer? Pouvait-on l'anticiper? Comment aider au maximum les voyageurs? Invité ce soir de l'invité éco, le PDG de Promovacances et de Fram, Alain de Mendoza. Le secteur du tourisme décidément en difficulté puisque XL Airways a jusqu'à samedi midi seulement pour trouver un repreneur. Pour la première fois, un groupe de femmes est jugé pour une tentative d'attentat sur le sol français. C'était à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2016. Les feux de la colère, ceux que les agriculteurs ont décidé d'allumer ce soir pour protester contre les zones de non-traitement sur 5 ou 10 mètres près des habitations. Zones sur lesquelles ils ne pourraient plus épandre de pesticides. Et puis coup de rabot pour les retraités. Le gouvernement va rogner une exonération qui permettait de réduire le coût d'une aide à domicile pour les personnes âgées. Du côté du ciel, cette semaine sera bien arrosée. On avait besoin de la pluie. Eh bien, on en aura. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal.
Europe 1.
Elle est l'icône de la défense du climat. Vendredi dernier, elle a fait descendre la jeunesse du monde entier dans la rue. La jeune Suédoise Greta Thunberg était à la tribune de l'ONU cet après-midi face à une 60aine de chefs d'État du monde entier. Et encore une fois, elle a su trouver les mots, ceux d'une jeune fille de 16 ans.
Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'océan. Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Et encore, je suis une des plus chanceuses. Des gens sont en train de souffrir. Des gens sont en train de mourir. Des écosystèmes entiers sont en train de disparaître. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées sur la croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Les yeux de toutes les futures générations sont sur vous. Et si vous choisissez de nous abandonner, je vous le dis, nous ne vous pardonnerons jamais.
Greta Thunberg à la tribune de l'ONU à New York devant ce sommet sur l'urgence climatique. 66 pays réunis autour d'un objectif, la neutralité carbone en 2050, comme le prévoit l'accord de Paris sur le climat. 66 pays, mais pas le Brésil, absent, ni les États-Unis, même si Donald Trump a finalement fait une apparition de dernière minute. Emmanuel Macron, lui, s'est exprimé dans la foulée du cri de détresse de Greta Thunberg.
Nous avons dans beaucoup de nos pays, chaque semaine, depuis des mois et des mois, nos jeunesses qui s'expriment. Et je crois qu'elles disent une urgence absolue à laquelle nous ne saurions répondre ici en disant « tout va bien, regardez, on fait ce qu'il faut ». Et cette urgence absolue nous dit une chose, vous n'allez pas assez vite. Donc je compte chacun sur vous, des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester, on ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire « on fait tout bien ». On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble.
Emmanuel Macron, cet après-midi, à la tribune de l'ONU au micro européen de Jean-Rémy Baudot. Des milliers de parties civiles, des mois d'auditions. Ce n'est pas un procès comme les autres qui s'est ouvert ce matin, mais celui du plus grand scandale médical français, l'affaire du Mediator, cet antidiabétique prescrit comme coupe-faim. Sur le banc des accusés, des représentants des laboratoires Servier, mais aussi des autorités de santé. Et sur le banc des victimes, notamment Nathalie, qui souffre de complications au cœur.
Le péri à 45 ans, à cœur ouvert, c'est très dur pour la famille, pour les enfants, pour moi-même, hein, parce qu'on est essoufflé, on est fatigué. Je vous dis, hein, j'avais un très bon métier, j'étais obligée de l'arrêter, trop fatiguée pour l'exercer. Et j'ai que 54 ans, donc j'ai l'impression d'avoir le cœur d'une femme de 10 ans de plus. Et puis il n'y a pas que ça, il y a des traitements, et puis voilà, tout s'arrête. Alors, ça fait 10 ans que je l'attends. Enfin, le procès pénal. Ah oui, ça va être... Moi, j'espère que on va aboutir à une belle chose. Que le laboratoire Servier soit reconnu coupable de nous avoir empoisonné notre vie. On nous a empoisonné.
Chloé Trillon, vous suivez ce procès pour Europe 1. On entend l'attente des victimes. Aujourd'hui, elles se sont retrouvées en face des 25 prévenus mis en cause, et notamment les représentants du laboratoire Servier.
Oui, et malgré l'absence du fondateur et ancien patron du groupe, Jacques Servier, décédé il y a 5 ans, eh bien d'autres cadres de l'entreprise sont, eux, bel et bien jugés, assis face aux victimes. Le président des laboratoires, Olivier Laureau, au nom du groupe, a d'ailleurs délivré ce message à leur intention juste avant l'audience.
Mes premiers mots vont pour les patients qui ont souffert du Mediator. Et notre laboratoire et moi-même leur exprimons à nouveau nos regrets sincères et profonds. Et nous attendons de ce procès qu'il permette de faire la lumière sur les faits exacts, sur les responsabilités multiples, et ainsi nous démontrerons que nous n'avons pas trompé.
Alors on entend les regrets, mais aussi la ligne de défense de Servier qui conteste les accusations de dissimulation des effets indésirables du Mediator. Victimes et prévenus auront 6 mois, soit 110 jours d'audience pour se faire entendre du tribunal qui, a rappelé la présidente, n'est pas compétent pour dire le nombre de morts, mais qui devra juger les faits de tromperie, escroqueries, homicides et blessures involontaires dans un procès nécessairement très technique.
Chloé Triomphe qui suit pour Europe 1 ce procès donc au Palais de Justice de Paris. Les audiences doivent durer jusqu'au printemps.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Il est 22h07 et c'est un casse-tête géant. 600 000 touristes à rapatrier, victimes de la faillite du voyagiste Thomas Cook, mis en liquidation judiciaire. Parmi eux, 150 000 Britanniques, mais aussi 10 000 Français bloqués sur leur lieu de vacances. Emmanuel Duteil, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec les passagers qui ont déjà une réservation ?
Eh bien, il y a plusieurs cas de figure, mais on va essayer de regarder au global. Et dans la majorité des cas, Thomas Cook doit logiquement vous proposer un départ avec un autre prestataire ou vous rembourser, si vous le souhaitez, vos avoirs. Dans tous les cas, il ne faut pas payer une deuxième fois si l'hôtelier vous le demande en arrivant, par exemple, à Corfou en Grèce ou à Mamet en Tunisie. Il faut reconnaître malgré tout que pour le moment, c'est quand même un petit peu le gros flou, puisque la filiale française, elle, n'a pas encore déposé le bilan. Elle n'est donc pas en faillite ou n'est pas fermée, comme ça peut être le cas en Grande-Bretagne. Dans tous les cas, la filiale française de Thomas Cook le reconnaît. Il est préférable de reporter ses vacances pour ne pas se retrouver dans la situation de tous ceux qui sont bloqués. Il faut quand même vraiment imaginer la situation. La Grande-Bretagne parle de la plus grande opération de rapatriement de civils en temps de paix. Sur les 600 000 clients actuellement en vacances et qui ne sont pas tous bloqués, mais malgré tout, on compte 150 000 Britanniques, 140 000 Allemands ou, comme vous le disiez Isabelle, moins de 10 000 Français. À titre d'exemple, 25 à 30 000 clients sont actuellement bloqués au Balai. Ce qui est donc une situation totalement inédite pour le monde du tourisme.
Et Emmanuel Duteil, que vous retrouverez dans quelques minutes pour évoquer justement cette faillite de Thomas Cook avec son invité, le PDG de Promo Vacances et de Fram, Alain de Mendoza. Ça va mal, décidément, pour le tourisme. La justice est au chevet des compagnies Aigle Azur et XL Airways, toutes les deux dans l'impasse financière. XL qui suit le même chemin qu'Aigle Azur, puisqu'aujourd'hui, le tribunal de commerce de Bobigny a accordé un délai jusqu'à samedi midi seulement pour que de potentiels repreneurs puissent se manifester. Les agriculteurs mobilisés ce soir pour protester contre les fameuses zones non traitées entre 0 et 5 mètres des maisons où ils ne pourront plus traiter avec des produits phytosanitaires. Un peu partout en France, la colère gronde. Ils estiment que les pertes seront considérables. C'est le cas notamment en Haute-Garonne, à Capins, au sud-ouest de Toulouse. Ils ont investi ce soir un rond-point et allumé un grand feu pour protester. Écoutez Luc Mesba de la FDSEA de Haute-Garonne.
On va nous interdire de traiter nos cultures à 5 mètres des maisons. C'est une aberration totale. On va nous interdire et en contrepartie, on ne va pas garantir la sécurité des consommateurs. Très simplement, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans l'assiette des Français, on a 2/3 des fruits et légumes en France qui sont consommés, qui viennent de l'étranger. On a 6 poulets sur 10 qui viennent de l'étranger. On a 80% dans la restauration de la viande qui vient de l'étranger. On a un ras-le-bol. Et nous, on passe, je vous donne le chiffre, 15 minutes dans l'année au bord d'une maison, avec des produits qui sont totalement autorisés. Stop le ras-le-bol, on n'est pas la variable d'ajustement. 5 mètres sur un département comme l'Haute-Garonne, ce qui est un département avec multiproduction, c'est 15 000 hectares. 15 000 hectares, c'est aujourd'hui la surface quasiment en maïs, il y a 20 000 hectares de maïs, dans le département de l'Haute-Garonne. Voilà ce qu'on va faire. Tous les soirs de la semaine, jusqu'à jeudi, il y aura des actions de campagne. Si jeudi soir, le ministre n'a pas répondu à nos attentes, notamment 0 mètre de ZNT, on partira sur les métropoles et on fera des blocages.
Luc Mesbah de la FDSEA de Haute-Garonne, au micro européen de Benjamin Péter, le correspondant à Toulouse. La grève à la SNCF demain, contre la réforme des retraites. Attention, le trafic est perturbé dès ce soir. 2 Intercités sur 5, 3 TER sur 5, 1 Transilien sur 2. En théorie, pas de soucis sur le réseau TGV à l'exception des lignes Atlantique et Nord. 5 femmes sont jugées depuis aujourd'hui devant les assises de Paris. 5 femmes qui, en septembre 2016, avaient abandonné une voiture remplie de 6 bonbonnes de gaz à proximité de Notre-Dame de Paris. Heureusement, le système de mise à feu n'a pas fonctionné. 5 femmes, donc djihadistes présumées, âgées de 22 à 42 ans. Salomé Legrand, vous avez suivi la première audience, une plongée en quelque sorte dans un djihad criminel féminin.
Avec, oui, ces 4 femmes côte à côte dans le box en chemisier strict, longue boucle brune, tantôt lâchée, tantôt relevée en chignon et qui encourent la réclusion à perpétuité. Elles ont écouté impassibles les enquêteurs de personnalité retracer leur parcours respectif cet après-midi. Inès Madani d'abord, aujourd'hui 22 ans, 4e de 5 enfants dans une famille pratiquant peu l'islam. Une relation chaotique avec sa mère qui la pousse au régime, une agression sexuelle à l'adolescence, des capacités scolaires certaines mais un décrochage progressif. Elle envisage d'être auxiliaire de vie, puis la pâtisserie. Faute de stage, elle finit par faire des babysitting chez une voisine. C'est elle, particulièrement radicalisée, qui met Inès Madani sur la voie du djihad. Elle finit par partir en Syrie, laissant la toute jeune femme privée de passeport, seule dans son mal-être. Même famille de classe moyenne pour Sarah Hervouette, 26 ans, née à Lisieux. L'enquêtrice raconte une enfance entre le Gabon, où travaille son père adoptif, et la France, où sa mère se sent mieux. Des retrouvailles à 17 ans avec son père biologique, qui lui font interrompre son CAP coiffure, mais qui tourne court. Une conversion à l'islam qui la stabilise, mais que ses parents n'acceptent pas. Quant à Amel Sakaou, chez qui le commando sera interpellé, elle aussi a un parcours classique, un boulot, 4 filles, des sorties alcoolisées en boîte, puis la foi qui se manifeste à elle, jusqu'à la faire quitter son poste d'agent de sécurité dans un supermarché pour pouvoir porter le voile. Mais elle n'est pas dans le box. Depuis ce matin, elle refuse de se présenter à l'audience, tout comme elle a refusé d'avoir un avocat durant toute la procédure.
Salomé Legrand qui suit pour Europe 1 ce procès aux Assises de Paris.
Europe 1, Isabelle Millet.
C'est la première grande réforme sociétale du quinquennat Macron, plusieurs fois reportée. La PMA arrive demain à l'Assemblée dans le cadre de la loi bioéthique. L'autorisation de la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples de lesbiennes qui risquent d'agiter les débats. Virginie Riva, il y a 2500 amendements, 600 rien que sur l'article 1 qui énonce l'autorisation de la PMA. 3 semaines de débat, ça risque donc de batailler fort.
Oui, et ce qui est compliqué, c'est qu'au sein de chaque groupe parlementaire, il y a des divisions. Il faudra donc s'attendre à des attelages transpartisans. Exemple, sur le premier sujet de tension, la filiation. Alors la filiation, c'est quoi ? C'est la conséquence de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes homosexuelles. Le gouvernement propose là une révolution juridique. La filiation reposait jusqu'à maintenant sur le principe de l'évidence biologique, à savoir celle qui accouche est de facto la mère. Dans ce projet de loi, la filiation sera pour les couples de femmes homosexuelles basée sur un contrat, c'est-à-dire que les deux mères devront signer avant la naissance de l'enfant une reconnaissance anticipée chez le notaire afin qu'il n'y ait aucune inégalité entre la mère qui accouche et celle qui n'accouche pas. La droite est vent debout. Pourquoi ? Par peur, selon elle, qu'on s'habitue à la filiation par contrat et donc peut-être qu'un jour, il y ait la possibilité pour deux hommes de devenir père d'un enfant né par GPA, soit par mère porteuse. La gauche aussi va s'opposer, mais pas pour les mêmes raisons. Là, c'est parce qu'elle ne veut pas de régime spécifique pour les homosexuels.
Les explications de Virginie Riva. Un nouveau coup de rabot pour les retraités. Le gouvernement a décidé de s'attaquer à une nouvelle niche fiscale, celle des plus de 70 ans, qui touche des aides pour employer des personnes à domicile, Olivier Samin.
Oui, aujourd'hui, quand vous employez une personne à domicile, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt, mais vous avez droit en plus à une exonération totale de votre cotisation employeur si vous êtes soit en situation de dépendance, soit si vous avez plus de 70 ans. Et là, peu importe que vous soyez dépendant ou non, seul le critère de l'âge est pris en compte. C'est justement ce que le gouvernement veut revoir. Dans le projet de loi de finances qui va être présenté mercredi, l'exonération de la cotisation employeur ne sera plus accordée qu'aux personnes dont la dépendance a été constatée. Le gouvernement estime que c'est une question de justice. Est-il pertinent, dit-il, que des retraités aisés et en bonne santé bénéficient de cet avantage du seul fait qu'ils ont plus de 70 ans, alors qu'une femme élevant seule ses enfants n'y a pas droit? Le ministère du Travail a fait ses calculs. Avec cette mesure, il en coûtera 17 euros de plus par mois à une personne de plus de 70 ans qui paye une femme de ménage 8 euros de l'heure et qui la fait travailler 5 heures par semaine.
Les précisions d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Un préaccord trouvé aujourd'hui à Malte pour la répartition des migrants sauvés en mer. Préaccord entre la France et 3 pays dont l'Italie. Objectif, répartir automatiquement les candidats à l'exil qui débarquent sur les côtes maltaises ou italiennes. Un mot de sport, l'Argentin Lionel Messi, légende du foot et du FC Barcelone, a reçu aujourd'hui à Milan le prix FIFA The Best de meilleur joueur de l'année. Cette victoire est une petite surprise car le favori c'était le défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, nommé il y a un mois joueur UEFA de l'année. Les deux hommes devraient aussi se disputer le ballon d'or qui sera décerné le 2 décembre. Et puis sachez que le chef Marc Vera a décidé de poursuivre en justice le guide Michelin pour connaître les raisons exactes du déclassement de son restaurant La Maison des Bois, auquel avait été retirée en janvier sa 3e étoile. À la suite de ce déclassement, Marc Vera avait demandé à ne plus figurer dans le célèbre guide. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Aujourd'hui, c'était le premier jour de l'automne et ça se ressent sur la météo.
Et oui, ça y est Isabelle, c'est l'automne et pas que sur le calendrier effectivement. Demain, c'est une journée maussade qui nous attend sur quasiment toute la France. Au lever du jour, du nord à l'Aquitaine, en passant par les Pays de la Loire, la Normandie, la région parisienne, le centre, le Nivernais, le Massif central et le Limousin, et bien dans toutes ces régions, demain, il pleuvra dès le lever du jour avec des averses très soutenues. Alors attention, ces perturbations, elles vont se déplacer vers l'est et de l'Alsace aux Pyrénées, et bien le temps sec que vous aviez le matin deviendra très pluvieux au fil des heures. Le vent d'ouest se lève, lui aussi, et il souffle fort demain sur les côtes de la Manche, la Bretagne et la Corse. En fait, seul le bassin méditerranéen reste au sec et sous le soleil demain. Les températures, bien, elles sont de saison, des vraies températures automnales. 17 degrés demain après-midi à Langres, 18 à Aurillac, 20 à Paris et jusqu'à 26 degrés quand même à Marseille.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le PDG de Promo Vacances et de Fram pour évoquer bien sûr la faillite de Thomas Cook et ses conséquences. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 22h18, comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse maintenant à la bourse. Et c'est avec vous Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute cette semaine en douceur, en légère progression.
Après une fin de semaine dernière en berne, Wall Street est plus calme, oui, en légère hausse sur le Dow Jones, plus 0,06%, rien de spectaculaire. 26 950 points, quasiment stable sur le Nasdaq à 8 112 points. Vendredi, le marché avait craint une rupture des négociations commerciales après le départ prématuré de la délégation chinoise des États-Unis en fin de semaine dernière. Donc, il n'en est rien. Apparemment, les autorités se sont montrées plutôt rassurantes. Alors, ça fait remonter les valeurs qui avaient baissé vendredi, les valeurs exportatrices comme Intel, plus 0,3%, comme Tesla, plus 0,2%. Apple remonte de 0,5%. En revanche, on est stable sur Microsoft, stable sur IBM. Il faut dire que les taux restent quand même sous haute surveillance, avec toujours la Réserve fédérale qui intervient sur le marché monétaire pour calmer le jeu. Le pétrole hésite autour des $63,50 le baril de Brent. On est stable. Stable aussi sur Exxon. Le géant pétrolier est à $72,13. L'euro revient un cran en arrière. On est juste sur les 1,10 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, elle, a marqué une pause après ses records de la semaine dernière.
Oui, après avoir battu des records vieux de 12 ans quand même. C'était vendredi, donc on était remonté sur les niveaux de 2007 avant la crise. Le CAC 40 a marqué le pas en baisse d'1,05%. Ce sont des prises de bénéfices assez logiques après cette séquence de hausse. 5 630 points sur le CAC 40, les valeurs qui étaient remontées récemment comme les industriels, les valeurs cycliques ont reperdu du terrain alors que les derniers indicateurs de conjoncture sont quand même très mous en Europe, en particulier en Allemagne où ça devient même inquiétant. De Richbourg perd 7,7%, Arcelor redonne 6%, Vallourec moins 5%, l'automobile aussi baisse, Peugeot moins 4%, Renault redescend de 2%, Valeo moins 2,4% et Forestia moins 1,8%. À noter les banques qui étaient remontées redonnent du terrain, BNP moins 3% avec la Société Générale et le Crédit Agricole moins 1,3%.
Et puis l'exception du jour, ce sont les valeurs dites défensives qui se sont distinguées.
Oui, alors on parle ici des titres jugés peu risqués. au moins sur le papier. Quand le marché baisse, ces titres servent de refuge. On note par exemple Sanofi dans la santé, Essilor dans l'optique, Danone dans l'agroalimentaire. Toutes ces valeurs progressent légèrement ce soir de l'ordre de 0,5%. Sur les autres places financières, ça baisse bien, même sur le DAX à Francfort, moins 1%. Ça rechute d'1,2% à Bruxelles, moins 0,9% à Madrid, moins 1% à Milan. Et donc le CAC 40 en baisse ce soir d'1,05%, 5 630 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamaud de Boursier.com.
Et c'est l'heure de retrouver l'invité Éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez donc ce soir le PDG de Promo Vacances et de Fram.
Bonsoir Alain de Mendoza.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de Promo Vacances et de Fram. On va bien évidemment parler de la faillite de Thomas Cook. On est d'accord que c'est du jamais vu dans le monde du tourisme?
C'est la plus grosse faillite de l'histoire du monde du tourisme. Thomas Cook a actuellement 600 000 clients qui sont répartis à travers le monde, à tel point que le gouvernement anglais a lancé l'opération qu'ils appellent Matterhorn, qui vise à rapatrier quasiment de façon militaire ses clients disséminés à travers le monde.
Vous travaillez depuis des années dans le monde du tourisme. Vous l'aviez vu venir avant, là, le début du week-end où tout le monde a commencé à en parler?
Alors, on savait que Thomas Cook, depuis des années, était en difficulté financière. Il cherchait des fonds. Les Chinois étaient venus. On pensait que les Chinois allaient sauver un certain temps nos amis Thomas Cook. Le fait est que ce week-end, le verdict est tombé. On dit « too big to fall ». Et le fait est que même les plus grands groupes finissent, quand ils sont en difficulté, par tomber.
Alors, quand on dit ça, c'est que d'habitude, on ne doit pas laisser un groupe tomber parce qu'il est tellement gros qu'il peut emporter tout le monde derrière. Il va emporter tout le monde derrière?
Alors, il va emporter sûrement beaucoup d'hôteliers. Il faut savoir que dans cette industrie, les hôteliers sont les derniers à être payés. Les clients payent l'agence de voyage, qui paye le tour opérateur, qui paye l'hôtelier. Donc, à travers le monde, dans beaucoup de pays, en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Tunisie, en Maroc, il y a malheureusement des hôteliers qui n'auront pas l'argent des clients qu'ils ont servis.
Soyons très concrets, vous êtes le patron de Fram. Vous payez l'hôtelier une fois que j'ai repris ma valise et que je suis remonté dans l'avion pour rentrer en France?
Alors, il y a toutes sortes de mécanismes.
Mais globalement, c'est ça.
Alors, pour avoir des bons prix, nous, sur Promo Vacances et sur Fram, pour avoir les meilleurs prix, ce qu'on fait, c'est qu'on paye les hôteliers avant. Et il est évident qu'un hôtelier qui a reçu son argent avant, il est plus enclin à faire des très bons prix. Mais Thomas Cook, ayant eu depuis de nombreuses années des difficultés de trésorerie, avait tendance à payer après, faisant monter un peu les prix, mais comme ça, évitait des problèmes de trésorerie.
Malgré tout, donc vous dites que des hôteliers vont tomber, mais est-ce que d'autres groupes de tourisme pourraient tomber?
Alors, la question qui se pose dans l'industrie, c'est ce qu'on parle d'un risque systémique, c'est-à-dire que la faillite de l'un entraîne la faillite d'un autre, un peu comme la crise des subprimes.
Oui, parce que quand on regarde les raisons, Internet, bien évidemment, on est de plus en plus nombreux à faire nos vacances tout seul et à ne pas passer par une agence de voyage. Le Brexit, moins de touristes britanniques, mais ça impacte également les gros opérateurs continentaux. Et une mauvaise stratégie. Bon, ce n'est pas les seuls à avoir de mauvaises idées, donc est-ce que d'autres vont tomber?
Alors, la particularité de Thomas Cook, il faut savoir, c'est que Thomas Cook était un groupe intégré, c'est-à-dire qu'ils avaient leur compagnie aérienne, leurs hôtels et leurs agences de voyage. Donc, je dirais, c'est comme une tour du 11 septembre, qui malheureusement, un étage écrase un autre et finit par faire un grand nuage de poussière. Mais le risque de contagion, aujourd'hui, est assez limité de par la structure verticale de ce groupe britannique.
Par exemple, vous avez repris Fram à la barre du tribunal de commerce il y a maintenant quelques années. Donc, comme quoi, il n'y a pas que Thomas Cook qui peut tomber. Vous n'avez pas d'inquiétude pour la pérennité, par exemple, d'un groupe comme Fram?
Ah, je dirais presque au contraire.
Parce que vous allez récupérer des clients.
Il y a des clients qui vont bien sûr aller chez d'autres enseignes, comme Fram ou d'autres. Et nous offrons aujourd'hui, nous, une marque française qu'on défend et qui en plus a retrouvé beaucoup de couleurs et qui va, j'espère, satisfaire tous ses clients à la recherche de nouveaux partenaires.
Ça veut donc dire qu'encore aujourd'hui, en 2019, Alain de Mendoza, on résiste à Internet quand on est un groupe du tourisme comme Fram, comme TUI, comme QUNI, comme d'autres, quoi.
Il faut proposer un certain niveau de service aux clients. Si on est sur Internet, on vend en général du prix, on le sait, Promo Vacances. À partir du moment donné où on est plutôt avec des agences de voyage classiques, il faut proposer un service de prestation. C'est pour ça que Fram insiste beaucoup sur son concept Framissima, avec un service club francophone. Et comme ça, on peut exister, mais il n'y a pas de gens qui arrivent à exister en n'offrant pas une qualité de service aux clients.
En ce moment, pour de nombreux touristes, c'est la double peine, puisque certains ont également perdu leur billet avec la faillite des Glazures. Et on a appris là, il y a maintenant quelques heures, également la faillite d'XLR West. Ça ne faisait pas beaucoup de surprises, mais ça y est, c'est terminé aussi pour XL Airways. Vous travaillez avec certains de vos clients de la Fram ou de Promovacances partent avec XL Airways.
Oui,
c'est de façon très concrète. Vous avez laissé des gens sur le carreau là aussi.
Alors nous, on ne laisse jamais personne sur le carreau. C'est une question d'éthique et de moyens financiers aussi. Tous les clients qui seraient bloqués à destination ou qui sont en partance avec nous, avec nos enseignes, n'ont absolument aucun souci à se faire. Ils partiront. Alors, si ce n'est pas XL, ça sera une autre compagnie. Mais au final, un billet d'avion, c'est un billet d'avion.
Malgré tout, c'est une situation extrêmement compliquée. Là aussi, c'est historique. Deux compagnies de cette taille-là qui tombent en même temps, c'est du jamais vu en France.
Je ne vous cache pas que dans le tourisme aujourd'hui, on va être beaucoup à travailler très tard le soir, le week-end, avec un certain stress pour que le client ne se rende même pas compte qu'il y a eu une réorganisation complète de son voyage.
Mais malgré tout, vous, si vous n'avez pas les prix que vous aviez négociés avec XL Airways et que vous êtes obligé de vous reporter sur Air France, vous n'allez pas bientôt avoir les mêmes prix. Qui va payer ?
Alors,
c'est moi le client ?
Non, le commercialement va partir au prix auquel il aura payé.
Mais est-ce que demain, il y aura un petit surcoût du coup ?
Le surcoût, il sera pour nous.
Il sera pour vous ?
C'est commercialement, on va prendre sur nous le fait de payer un peu plus cher une solution avec Air France ou une autre compagnie aérienne pour que nos clients partent tranquilles.
Quand on voit le cas de Thomas Cook, quand on voit XL Airways, à chaque fois on se dit que c'est le client qui se retrouve bloqué au bout du monde, qui doit prendre un billet sur ses fonds propres. Comment on ne peut pas se débrouiller dans ce monde du tourisme pour mieux indemniser et mieux préparer ce genre de situation ?
Alors c'est une très bonne remarque, il y a deux types de clients. Il y a les clients qui vont acheter en direct, vous achetez sur le site d'Excel, donc vous êtes exposé, vous n'avez pas la garantie d'une agence de voyage. Excel ou Eglazur tombe, vous êtes responsable de votre voyage. Ou bien, deuxième solution, vous passez par une agence de voyage, que ce soit sur Internet ou une agence de voyage qui a pignon sur rue, vous êtes couvert. C'est la responsabilité de l'agence de voyage de vous trouver une solution. Donc, c'est bien deux situations très différentes. Le client qui se débrouille tout seul dans son coin et le client qui s'en remet à une agence de voyage.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Alain de Mendoza, la tête de Promo Vacances et de Fram, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
À demain, évidemment. Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Climat, le cri d'alarme de l'ONU, titre Les Échos qui publie en une la photo d'une forêt qui brûle. L'ONU décrète l'urgence climatique, son secrétaire général se prononce pour une taxe carbone. Banques et entreprises industrielles s'engagent contre le réchauffement et malgré le boycott du Brésil, 500 millions de dollars sont débloqués pour l'Amazonie. Le climat qui fait également la une de Libération, vert et prospère à la fois. Quand le durable est aussi rentable, titre le journal. Un papa qui joue avec ses enfants à la campagne, en photo à la une du journal La Croix, avec ce titre « Peut-on se passer de père ?» Alors que le projet de loi de bioéthique qui étend la PMA à toutes les femmes est examiné à partir de demain à l'Assemblée. Ce sujet de la PMA que Florence Chédotal a également choisi pour son édito dans le journal La Montagne. « Il n'est rien de plus difficile à réviser que ses convictions intimes », écrit-elle. La peur de vaciller, de mettre un pied en terrain inconnu, de voir s'écrouler un ordre établi, rassurant, du moins dans ses apparences. Municipal, En Marche et le choc du réel, titre le journal L'Opinion. Le camp macroniste qui espérait conquérir beaucoup de villes réalise que les règles du scrutin, primo sortant, poids de l'ancrage territorial, sont autant de handicaps pour lui. Et puis Thomas Cook, une fin de voyage en mondiovision, écrit Laurent Baudin dans le journal Alsace. Too big to fail, cette loi non écrite selon laquelle une entreprise serait trop grosse pour faire faillite, ne s'est donc pas appliquée à Thomas Cook malgré son âge vénérable, 178 ans, ses 22 000 salariés et 600 000 clients en vacances à travers le monde. Le voyagiste britannique a brutalement cessé ses activités. L'issue est un échec de la mondialisation en mondiovision. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et à 22h30, tout pile, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous.
Merci. À tout à l'heure, 23h pour le Flash.